Bon, nous sommes entendus, je vais donc commencer à parler en premier. Il me suffira de dire qu'aujourd'hui, je ne présente pas mon livre. Je présente un livre dont l'édition m'a été confiée, mais pas le mien propre, que vous pourrez voir aussi, mais qui n'est pas celui que je présente aujourd'hui. Je présente aujourd'hui un livre qui, je pense, est probablement plus important que celui que j'ai écrit moi-même, qui est le livre d'un professeur au Collège de France qui a disparu en 1994, qui s'appelait Marcel Giraud. Et Marcel Giraud a été le premier des grands historiographes de la Louisiane. Quand je dis le premier, ce n'est pas le premier chronologiquement, mais c'est certainement le premier pour la fondation savante et scientifique de cette histoire de la Louisiane française. Je vais commencer et terminer cette petite présentation par un texte issu de son livre. Alors, le premier, c'est celui-ci. Vous allez rapidement comprendre pourquoi je cite ces textes. Il restait beaucoup de petits habitants qui entreprenaient la culture du tabac sans personnel servile et sans hangar, et qui ne pouvaient aller au-delà de ce qu'ils faisaient antérieurement. Le séchage complet de la feuille était encore plus nécessaire pour adopter le mode d'expédition qu'exigeait maintenant la Compagnie des Indes, à savoir l'emballage dans des boucaux, c'est-à-dire des tonneaux de taille moyenne, dans lesquels on met des produits secs, seul moyen d'éviter les risques de détérioration que pouvaient entraîner les transports par eau et surtout par mer. Or, l'étanchéité n'était jamais assurée. Comme il y avait peu de tonneliers capables de confectionner des boucaux, à tel point qu'il arriva au gouverneur Perrier et à l'ordonnateur Lachaise de faire l'expédition dans des futailles à eau qu'ils enlevaient à des navires négriers, la compagnie s'efforçait de recruter dans la métropole un personnel qualifié. À plusieurs reprises, surtout en 1728, on note qu'elle engage des tonneliers pour la Louisiane. Mais c'est seulement en 1730 que 6 tonneliers sont mentionnés comme spécifiquement destinés à l'emballage du tabac, tous originaires de Bordeaux. Voilà. Donc c'est le premier texte que je voulais vous lire pour dire que Marcel Giraud parle aussi de Bordeaux. Tous les historiens et tous les amateurs de la Louisiane française savent que les préliminaires les plus solides de cette histoire scientifique que j'évoquais tout à l'heure ont en effet été écrits par Marcel Giraud. Nous publions aujourd'hui un ouvrage extrêmement étrange. Cet ouvrage a été écrit il y a une trentaine d'années et achevé il y a 25 ans. Il a été écrit en français, naturellement, Giraud étant professeur au Collège de France, mais il a été publié en américain il y a 11 ans. Il y a 21 ans, que dis-je. Il a été publié il y a 21 ans, en américain, avec une bourse de traduction, et il était indisponible en France. Il se trouve que le dépôt légal de cet ouvrage, Marcel Giraud l'avait offert à une institution américaine, la Historic New Orleans Collection, c'est-à-dire une institution qui est composée d'un musée, d'un centre de recherche, d'un centre d'archivage, d'une bibliothèque, et d'un lieu d'exposition. Et cette institution avait donc le droit, si vous voulez, de publication sur ce livre. Elle m'a demandé il y a 2 ans s'il ne serait pas opportun de publier enfin dans sa langue d'origine ce 5e tome d'une histoire de la Louisiane française que Marcel Giraud n'était pas parvenu à publier en France de son vivant. Et donc c'est à l'édition de cet ouvrage, qui était un fort volume tapé à la machine avec de très nombreuses notes marginales et un certain nombre de notes de bas de page qu'il fallait vérifier et éventuellement corriger. C'est donc à cette publication que je me suis attelé. Pourquoi est-ce que nous avons réalisé l'édition de cet ouvrage? C'est parce que l'ouvrage de Marcel Giraud n'est pas égalé sur beaucoup de points. Les 4 premiers tomes, qui composent à peu près 1500 pages, ont été publiés en français de 1953 à 1974. Ils ont disparu du marché il y a plus de 25 ans. On les trouve aujourd'hui dans des librairies d'occasion, rarement, sur quelques sites marchands de livres d'occasion, rarement aussi. Quant à ce dernier volume, celui que nous avons aujourd'hui sous les yeux, les Presses universitaires de France, qui étaient l'éditeur de Marcel Giraud, ont refusé de l'éditer en 1987, et il n'a pu donc être publié qu'aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il a été refusé? Il avait été refusé par cet éditeur car il était jugé comme suffisamment peu commercial pour n'intéresser plus personne. D'autre part, son auteur présentait cet ouvrage à 87 ans. Et il n'était plus à ce moment-là professeur au Collège de France depuis 13 ans. On ne voyait pas très bien quelle surface commerciale pouvait avoir un tel livre. Marcel Giraud était célèbre en France, il était célèbre au Canada, il était célèbre aux États-Unis, dans un domaine restreint d'américanistes intéressés par l'histoire des colonisations. Et cette connaissance qu'en avait un certain nombre d'intellectuels des deux continents n'a pas suffi à empêcher l'échec commercial de ce livre. C'était son second livre. Marcel Giraud, en 94 ans de vie, n'a publié que deux ouvrages, mais deux ouvrages d'une immense importance. Je vais revenir sur le premier ouvrage tout à l'heure, mais je vais d'abord évoquer un petit peu la vie de Marcel Giraud. Il est né à Nice en 1900, d'une famille entièrement méridionale, parmi lesquelles ne se trouvent ni enseignants ni chercheurs. Par sa mère, il est niçois, mais aussi du Piémont italien, d'une lignée où l'on compte des artisans, des ébénistes et des peintres. Peintres, non pas artistes, mais peintres en bâtiment. Par son père provençal, il descend de commerçants et de boulangers d'Aubagne et de Marseille. Il fait à Nice ses années d'école et de lycée, puis il étudie l'histoire à l'université d'Aix-en-Provence, études qui sont consacrées par une licence en 1919. Il a 19 ans. On pourrait croire que c'est très précoce. Vous allez voir qu'il n'en est rien. Il est alors envoyé en Algérie, professeur au collège de Beaune, en 1925, 6 ans après. Giraud est reçu à l'agrégation en 1930, 11 ans après sa licence. C'est dire qu'il consacre tout son temps au dépouillement d'archives. En 1935 et 1936, il effectue deux stages au Canada. Il est boursier à ce moment-là de la Fondation Rockefeller à la recherche des populations métisses de l'Alberta, du Manitoba et du Saskatchewan. Il nourrit ses travaux de recherches érudites aux archives du Canada, à celles de l'Alberta, à celles de l'archevêché de Saint-Boniface et des Sœurs Grises du Manitoba, à l'archevêché d'Edmonton, au couvent des Pères Oblats d'Ottawa et à l'Université de Toronto. Si je vous donne toute cette liste, c'est pour vous montrer qu'il s'agit d'une entreprise très neuve, à la fois par son sujet, le métissage, cette thèse qu'il est en train d'écrire va s'appeler le métis canadien, et par sa méthode qui unit l'archivistique, l'histoire et l'ethnologie. Un prêtre canadien et docteur en droit canonique qui s'appelait Antoine Descambeau rapporte avec enthousiasme et émotion sa rencontre avec Giraud. Je le cite. « J'ai pu l'accompagner dans quelques-unes de ses pérégrinations à travers la prairie. Nous avons été le témoin édifié de son acharnement au travail, de sa probité intellectuelle, de sa sincérité et de son honnêteté dans l'usage et l'interprétation des documents qu'il a eu la bonne fortune de consulter. Car M. Giraud a eu accès à une documentation que peu d'auteurs se donnent la peine de dépouiller. » Giraud soutient sa thèse sur le métis canadien, 1300 pages, en 1940, 10 ans après l'agrégation. Vous voyez, toujours ce rythme très étalé, heureusement qu'il a vécu 94 ans. Et il l'a publié en 1945, 5 ans après. Quant à la préparation et la rédaction ultérieure des 5 volumes de l'histoire de la Louisiane française, elles s'étendront sur 40 années, de 1948 à 1987. Cette relative lenteur est à rapprocher de l'extrême rigueur et de l'extrême densité de ces deux écrits, les deux colonnes de l'œuvre de Giraud, devenue en France, au Canada, en Louisiane, des classiques de l'historiographie nord-américaine. On n'oubliera pas de relativiser la lenteur de ses travaux, aujourd'hui accoutumés à l'existence de pré-inventaires, d'inventaires, puis à la diffusion des archives par microfilm et maintenant en ligne. Il nous est difficile d'imaginer la longueur et la difficulté des recherches menées sans les outils actuels, la lenteur des communications, la lenteur des voyages et leurs coûts pour un salaire de professeur de lycée et même du Collège de France, et les 5 années de guerre. Marcel Giraud enseigne 13 ans au Collège de Beaune, en Algérie donc, puis au lycée de Tourcoing, de Reims, et en 1936, à son retour du Canada, au lycée français de Londres, où il obtient une bourse Lavis d'un an. C'est ainsi qu'il peut travailler sur les archives de la compagnie de l'Hudson, puis à l'Institut français de Londres en 1938, à la veille de la guerre. Au début des hostilités, il travaille brièvement pour l'intendance française dans la capitale britannique, avant d'être nommé au lycée Carnot de Paris. Il rédige alors sa thèse, qu'il va soutenir à la fin de la guerre, et qui sera remarquée par Pierre Renouvin, directeur de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, la BDIC, professeur à la Sorbonne, et par André Siegfried, membre très influent de l'Institut, professeur au Collège de France. Suite à la publication du Métis canadien par l'Institut d'ethnologie, c'est un concert de louanges qui accueille l'énorme travail en France, mais plus encore au Canada, où ce travail fondamental est toujours d'actualité. Giraud se voit demander alors par le PUF, les presses universitaires de France, une brève histoire du Canada pour la collection Que sais-je, texte vite achevé et remarqué pour sa clarté d'écriture. C'est alors que la carrière de Marcel Giraud va connaître un coup d'accélérateur décisif. Une brève explication s'impose ici. Pendant l'occupation en 1940, l'administrateur de la Bibliothèque nationale, Julien Quin, est destitué, puis arrêté et déporté à Buchenwald en tant que juif. Il retrouvera son poste à la Libération. Quin est remplacé par un américaniste, professeur au Collège de France, Bernard Faye. Monarchiste, ce dernier est devenu pétainiste, collaborateur ardent, antisémite, dressant et publiant la liste des francs-maçons à éliminer. Condamné aux travaux forcés à perpétuité en 1944, Faye sera gracié en 1958 par René Coty. Il n'en reste pas moins qu'au lendemain de la guerre, un poste d'américaniste est donc libre au Collège de France. Et qui trouvait de mieux que l'intègre Giraud, qui vient de publier cette thèse remarquée sur le métissage. Quoi qu'il en soit, fort du parrainage éclatant de Renouvin, de Siegfried, Marcel Giraud sort de l'ombre et se voit propulsé en 1947 à la chaire d'histoire de civilisation de l'Amérique du Nord au Collège de France. Il y restera jusqu'à sa retraite en 1971. C'est pendant ce quart de siècle qu'il écrit la majorité de son œuvre la plus longue, l'histoire de la Louisiane française. 2000 pages pour décrire les 33 premières années de la colonisation de la Louisiane, de 1699 à 1731. C'est un territoire qui n'est pas celui de la Louisiane actuelle, mais qui s'étend sur le tiers du territoire actuel des États-Unis d'Amérique, de la Nouvelle-Orléans au sud, aux sources du Missouri à l'ouest et au Grand Lac à l'est, c'est-à-dire au voisinage de l'axe Saint-Laurent et de la colonie québécoise. L'histoire de la Louisiane française est une étude monographique sur une colonie de peuplement sédentaire. L'exploration du territoire est présupposée. Giraud ne se soucie que médiocrement des études qui ont précédé la sienne. Qu'il s'agisse de travaux américains ou français, pas de discussion sur les thèses des prédécesseurs qui sont implicitement déconsidérées. Dans son compte-rendu de la Revue historique en 1955, le conservateur en chef du ministère de l'Outre-mer, Carlo Laroche, donne raison à Giraud de cette appréciation, tout en regrettant quelque injustice faite au travail d'Émile Louvrière, qui a publié en 1940 une histoire de la Louisiane et qui s'était fait le défenseur de la cause des Acadiens. La bibliographie est de fait extrêmement réduite dans l'œuvre de Giraud et très peu exploitée dans des milliers de notes de renvoi. Vous aurez plaisir à lire. Ce qui donne fond et substance à l'histoire, ce sont les sources manuscrites, dont l'auteur fait un usage littéralement extraordinaire. On a vu dans quelles conditions. Ce ne sont pas les références nombreuses mais imprécises de Louvrière, ni les données fragiles ou partiales de ses prédécesseurs comme Marc de Villiers du Terrage. Chaque élément d'information est étayé d'une ou plusieurs références manuscrites décrivant des sources d'origine archivistique très nombreuses dans la même note. La correspondance administrative est la plus exploitée, mais les archives des congrégations religieuses, les registres paroissiaux, ceux des ports d'armement, le minutier central des notaires, les archives départementales, celles du Conseil supérieur de la colonie qui se trouve aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Pour la première fois, la majorité des sources est requise. L'objectif de l'historien est de décrire les tentatives successives et malheureuses de la métropole pour établir cette colonie, l'impéritie et les contradictions de la couronne de France et des compagnies dans leur gestion, hésitation dans l'attitude vis-à-vis des Amérindiens, incohérence de la politique de peuplement, divergence des initiatives militaires, religieuses, privées. Giraud montre qu'aux rivalités ordinaires des autres puissances, l'Angleterre et l'Espagne impliquées dans la colonisation de l'Amérique du Nord, s'ajoutent les oppositions et rivalités intérieures en France, où les banquiers visent le monopole, dans le Canada français craignant pour le commerce des fourrures, et en Louisiane évidemment, où chacun cherche pouvoir et fortune. Même au temps les plus prospères, lorsque l'argent affluent dans la colonie grâce au système de John Law, les progrès de l'établissement restent médiocres. L'affaiblissement de la France depuis la Régence, la spéculation à Paris, l'émigration forcée par la Compagnie des Indes, les mauvais usages et les abus qu'elle commet vis-à-vis des colons concessionnaires en seraient les principales causes, auxquelles s'ajoute l'indétermination de la frontière, quoique toute théorique, entre le Canada et la Louisiane. À ces faiblesses s'ajoute, nous dit Giraud, le manque de main-d'œuvre. Les premiers navires négriers arrivés en 1719 et 1720 acheminent moins de 600 Africains en Louisiane. Ils ne seront pas plus de 1000 en 1723, ce qui correspond à la moitié seulement de ceux qui y sont parvenus et démontre que la moitié sont morts. La question de l'esclavage des Noirs, fondamentale dans les travaux actuels, comme elle posait déjà problème au XVIIIe siècle pour des raisons religieuses, ne trouble guère l'auteur. C'est une histoire sans passion, une histoire froide, sur des centaines de pages consacrées aux différends entre les acteurs religieux, militaires, économiques de la colonie, quelques dizaines seulement sur les Amérindiens, moins encore sur les esclaves africains. Leur présence est moins sensible même que dans l'histoire de la Louisiane d'Antoine Simon Lepage Duprat, publiée dès 1758. Le choix de ce regard exclusif du puissant sur l'asservi peut paraître singulier aujourd'hui, alors que l'analyse de la colonie en tant que société distincte continuait à traiter avec moins de négligence les blocs culturels et sociaux en présence et ne se suffit plus d'une description aussi érudite soit-elle, profonde et pour tout dire indépassable. Car si l'on peut trouver quelques limites à cette prodigieuse enquête, à la mise en œuvre de tant d'archives, l'histoire de la Louisiane française n'en reste pas moins la base incontestable de l'étude globale de la colonie dans cette période et elle n'a guère d'équivalent pour la période ultérieure. En effet, les travaux les plus récents sur le sujet, qu'il serait trop long de mentionner ici, mais au départ duquel il faut citer l'édition de Glenn Conrad, The French Experience in Louisiana, en 1995, les historiens parlent tout le temps en 95. Il s'agit quelquefois de 1695, mais on se comprend entre nous. Donc, The French Experience in Louisiana, publié en 1995, offre, donc il n'y a pas très longtemps, offre de multiples et nouveaux regards à défaut d'une synthèse qu'un chercheur seul ne peut plus mener naturellement aujourd'hui compte tenu de l'extraordinaire accroissement des sources et de l'enrichissement des problématiques. Comme il était allé au Canada, enquêté et dépouillé d'infinies liasses d'archives, Marcel Giraud se rend à la Nouvelle-Orléans en 1967 pour suivre le travail suivi avec acharnement en France. Il est déjà venu aux États-Unis à deux reprises, vers 1950, je n'ai pas retrouvé les dates exactes et sa famille ne s'en souvient pas, voyageant sur le paquebot de Grasse. Il faudra regarder les listes de passagers. Cette fois, il est invité à prononcer une conférence à l'université Loyola de New Orleans à l'occasion du 250e anniversaire de la fondation de la ville. Ce Niçois y souffre de la chaleur, mais si l'on en croit les traces laissées dans son œuvre, consulte au moins partiellement au Louisiana State Museum les archives du Conseil supérieur de la colonie et aussi au couvent des Ursulines de la ville, les registres paroissiaux de la Mobile en Alabama et de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Giraud rédige alors le tome 4 de l'histoire de la Louisiane française où s'affirme la présence des archives conservées aux États-Unis et qui sera publiée en 1974. L'infatigable chercheur atteint et dépasse 80 ans. Hanté par l'idée d'une mort prochaine qui ne surviendra qu'en 1994, il retourne en Louisiane en 1981, en 1984, pour réunir les éléments d'un cinquième volume qu'il achève en 1987. Ce cinquième volume que nous publions aujourd'hui, pour la première fois dans sa langue d'origine, est le plus fascinant de la série, en ce sens que sans rompre avec l'exigence initiale, il répond en grande partie aux remarques que l'on a pu faire sur les premiers tomes. L'analyse de la société louisianaise, à peine esquissée dans la dernière partie du tome 4, prend une place prépondérante dans cet ouvrage passionnant qui aura coûté 14 années de travail à Marcel Giraud et presque deux à moi. Cette fois, le segment analysé court de 1723 à 1731, c'est-à-dire de la véritable fondation de la Nouvelle-Orléans après l'ouragan de septembre 1722, à la reprise de la colonie en régie royale. La Nouvelle-Orléans fait l'objet de deux chapitres couvrant près du tiers de l'ouvrage. Dans ce parcours chronologique de l'histoire de la Louisiane, on comprend qu'il n'y a pas de vie sociale sans un début d'urbanisation qui n'existait guère auparavant. Étude de la fondation de la ville, étude parallèle de la société qui s'y anime. La rareté des documents graphiques exploités ne permet pas à Giraud d'envisager une urbanistique. Le peu de recours aux archives concernant les affaires judiciaires et plus généralement les conflits entre particuliers, archives lointaines pour un historien français, mal classées, non inventoriées, interdit de brosser le portrait vivant d'une société multiraciale autonome. En revanche, la chronique détaillée des entreprises de construction et d'équipement, l'exposé des rivalités d'écoles et de personnes entre le personnel de la compagnie et les administrateurs royaux, le tableau précis des groupes sociaux vivant à la Nouvelle-Orléans et celui de leurs conditions de vie, sont rendus d'une façon telle que les travaux précédents paraissent d'une indigence et d'une légèreté frappantes. Pour ces deux seuls chapitres, la présente publication était indispensable. On objectera que le livre existait en américain depuis 1991. Il était en effet disponible à l'achat, mais présent en France à la seule bibliothèque du Collège de France, un exemplaire, et plus récemment à la bibliothèque de l'Université d'Amiens, un deuxième exemplaire. C'est sur ma demande qu'il est entré en 2002 seulement dans les collections des imprimés de la Bibliothèque nationale de France, troisième exemplaire. Voilà. Exposer succinctement les raisons de cette publication. Et je vais terminer par ce bref extrait. Il ressortait des principes de l'ingénieur que la brique serait appelée à jouer un rôle croissant, comme son prédécesseur l'avait déjà envisagé, mais sur une moindre échelle. Or, il apparut bientôt que la briqueterie établie en 1725 produisait trop peu pour les projets exposés par l'ingénieur. On essaya d'amplifier la fabrication en affermant la briqueterie à Moran, pour une durée de 5 ans, à charge de produire 50 milliers de briques par mois, le conseil mettant à sa disposition 16 nègres, dont la compagnie assurerait entretien et nourriture. Malgré l'augmentation jusqu'à plus de 40 du nombre des nègres attachés à la briqueterie, malgré l'aide active du mathématicien Baron, du fait peut-être aussi de la difficulté qu'il y avait à apprendre à manipuler des terres différentes de celles qu'on utilisait en France, les résultats ne furent pas encore suffisants. La brique n'était pas seulement nécessaire pour les bâtiments, elle l'était pour les besoins de la vie courante, pour permettre entre autres la fabrication de serres susceptibles de conserver le vin pendant les fortes chaleurs.
Donc moi je ne vais pas vous parler de Bordeaux, hélas, parce que ça ne fait pas partie des choses sur lesquelles j'ai réfléchi au départ de mes recherches. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, enfin, le trajet qui m'intéresse, c'est celui de Saint-Domingue vers la Nouvelle-Orléans. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas des Bordelais ou des Aquitains ou des gens du Sud-Ouest, des Béarnais, des Basques, qui ont fait cette migration. Mais en fait, moi, je m'intéresse qu'au deuxième segment, en fait, du déplacement. Donc, en 1803, la Louisiane devenait territoire des États-Unis. En 1812, donc, la partie la plus méridionale du territoire devenait l'État de Louisiane et faisait désormais partie intégrante de l'Union états-unienne. Et pourtant, pendant une grande partie du XIXe siècle, la Louisiane conserva une forte culture française, une forte tradition culturelle française. Donc en cette année de bicentenaire donc de l'État de Louisiane, il me semble qu'il est intéressant de tenter de comprendre les mécanismes en fait, de ce maintien de la francophonie et d'une culture à dominante française pendant plusieurs décennies après la fin du destin français de ce territoire à part dans les États-Unis. Donc très longtemps, les historiens en fait, ont présenté les premières décennies de l'ère américaine comme une lutte d'influence entre ceux que l'on appelait les anciens habitants ou encore les créoles et les nouveaux propriétaires de l'État de Louisiane, c'est-à-dire les Américains. Et récemment, en fait, un certain nombre de relectures de l'histoire ont montré que la situation était beaucoup plus complexe que cela, entre autres du fait, d'une part, de l'immigration continue, en fait, de très nombreux alors, Français de l'extérieur, ce que les Américains appellent « foreign French », et celle d'autres Européens, donc entre autres des Allemands et des Irlandais. Et en fait, pour la partie qui nous intéresse, évidemment, les Français de l'extérieur, on peut dire qu'il y a deux courants migratoires principaux. L'un, alors, qui est une migration venue directement de France après l'intégration de l'État du territoire de Louisiane aux États-Unis. Et donc là, on retrouve des Bordelais, des Aquitains, etc., qui migrent directement en Louisiane pendant toute la première moitié du 19e siècle. Mais il y a une deuxième source importante, en fait, de migration, qui est celle des réfugiés de Saint-Domingue. Et donc, c'est là-dessus que je vous dirai quelques mots rapides aujourd'hui. Alors, à la différence de Gilles, moi, c'est mon livre, plus ou moins, à partir duquel je vous fais cette présentation. Alors, par contre, je suis désolée, il n'est qu'en anglais, donc il n'existe pas en français. Donc, voilà, mais donc je vais vous le résumer un petit peu. Donc, pour contextualiser un petit peu, donc l'histoire de mes réfugiés commence bien sûr à ce que l'on appelait à l'époque Saint-Domingue, et leur migration, leur déplacement, en fait, correspond à la Révolution haïtienne, donc entre 1791 et 1803. Alors, la première date, 1791, c'est le début de la révolte des esclaves. Mais la révolution haïtienne a duré un peu plus d'une dizaine d'années pour diverses raisons. Il y a eu un moment, au moment de l'ère de Toussaint Louverture, où Toussaint Louverture est devenu lieutenant général de Saint-Domingue, un certain nombre de personnes qui étaient d'abord parties dans un premier temps pour fuir la révolte d'esclaves sont revenues dans l'île. Il y a eu une deuxième période également au moment où Napoléon a envoyé un corps expéditionnaire tenter de récupérer la colonie française des mains des esclaves révoltés, donc en 1802, on va dire autour de 1802, où un certain nombre de réfugiés sont rentrés dans l'île de Saint-Domingue. Mais en gros, pendant 10 ans, les gens sont partis, revenus, repartis, revenus, jusqu'à une évacuation finale, en fait, en fin 1803. On a plusieurs vagues de départ, y a eu un certain nombre d'événements en fait qui ont poussé la population à fuir. L'incendie du Cap Français en 1793, qui a été l'origine d'une importante vague de départ d'habitants de Saint-Domingue. Le retrait des troupes anglaises en 1798. Le retrait du corps expéditionnaire en 1803. Ces événements historiques, en fait, ont poussé des vagues importantes de personnes à partir de l'île. Bien sûr, pendant toute la période de la Révolution, il y a eu des départs individuels. Donc, ça n'est pas juste par vague, mais les gens partaient au fur et à mesure des événements historiques. Alors, partir où ? Donc là, on a des lieux d'accueil qui sont extrêmement divers. Certains sont rentrés en France, pas forcément de manière permanente. Finalement, en assez petit nombre, parce que beaucoup des colons qui étaient installés à Saint-Domingue étaient installés depuis plusieurs générations et finalement n'avaient pas plus beaucoup de liens avec la métropole. Donc, ça ne leur a pas paru des endroits prioritaires. Alors, bien sûr, il ne faut pas généraliser. Certains étaient partis depuis suffisamment peu longtemps pour revenir en métropole, mais ça n'a pas été la majorité, en fait. La majorité, on va dire, est restée dans les Amériques, dans deux lieux en particulier, le bassin Caraïbe pour une grande partie de ces réfugiés, alors pour des raisons évidentes de proximité, dans l'espoir d'un retour sur l'île de Saint-Domingue, en général dans des espaces coloniaux, dans des colonies qui étaient fondées sur des principes similaires, à savoir en particulier sur l'esclavage et les sociétés de plantation. Bien sûr, la facilité géographique première, ça a été Santo Domingo, c'est-à-dire la partie espagnole de l'île, ce qui est devenu maintenant la République dominicaine. Cuba, parce que c'était à quelques milles nautiques, en fait, de la côte de Saint-Domingue, et que s'il s'installait dans l'Orienté Cuba, il pouvait, les jours de temps très clairs, voir l'île de Saint-Domingue depuis Cuba. Et tout le bassin caraïbe en général, Curaçao, Trinidad, Porto Rico, enfin, de nombreuses îles de la Caraïbe. La Jamaïque aussi, parce qu'ils ont suivi l'évacuation des troupes anglaises. Bon, on dira les plus gros contingents, c'était quand même Santo Domingo, la Jamaïque et surtout Cuba. Le deuxième pôle d'attraction a été les États-Unis, en raison du départ de plusieurs bateaux directement vers les États-Unis, donc des migrations de flux plutôt. Donc là, on va dire tous les ports de la côte de l'Est américain, en fait, en gros depuis New York jusque à la Floride, enfin, on va dire Savannah. Un peu aussi sur la côte du Golfe, du Mexique, Mobile, bien sûr, et un peu, dans un premier temps, vers la Nouvelle-Orléans, mais finalement pas beaucoup. Donc, les grands traits de cette migration, c'est une migration qui se pensait temporaire, dans un premier temps, en tout cas au moins jusqu'aux années 1830 et au moment du paiement de l'indemnité par Haïti, et d'une indemnisation partielle des anciens colons de Saint-Domingue par le gouvernement français. C'est une migration qui, de façon intéressante, était une migration alors tripartite, c'est-à-dire représentant les trois catégories de population de Saint-Domingue, à savoir les blancs, les esclaves et les gens de couleur libre. C'est une migration qui a impliqué toutes les classes de la société de Saint-Domingue, une migration qui s'est faite souvent dans l'urgence, d'où la difficulté très souvent de la chiffrer. Une migration sans moyens et non préparée, avec les migrants n'ayant pour seule ressource que leur culture, leur expertise et leurs esclaves, la plupart du temps, puisque certains de leurs esclaves les ont accompagnés dans leur fuite. Alors, la Louisiane, vous me direz, dans tout ça, pour l'instant, elle n'est pas très présente. Mais si. Donc, dans un premier temps, pas beaucoup. Quelques centaines de migrants, on va dire, dans la première décennie suivant, la décennie de la révolution haïtienne, on va dire. Pour diverses raisons, parce que c'était un peu moins facile, techniquement, que pour les migrations que j'ai évoquées tout à l'heure. Aussi parce que tant que la Louisiane était française, en fait, ils ont eu peur de l'abolition de l'esclavage. Et donc, comme ils partaient avec leurs esclaves, ils préféraient trouver des endroits où l'esclavage leur paraissait plus assuré que dans une terre française. Par contre, il y a eu une énorme migration secondaire, en fait, après la révolution haïtienne. Donc, en 1803, en partie parce que le départ des troupes françaises a occasionné une nouvelle vague migratoire et la proclamation de l'indépendance haïtienne en 1804. En 1804 aussi sont arrivés énormément de réfugiés qui avaient dans un premier temps trouvé refuge en Jamaïque. Et là, parce que la reprise de la guerre entre la France et l'Angleterre a conduit les autorités jamaïcaines à expulser tous les Français non naturalisés installé en Jamaïque. Et en 1809-1810, une troisième vague très importante, venue cette fois-ci de Cuba, et donc les réfugiés qui avaient trouvé refuge dans un premier temps à Cuba et qui, pour les mêmes raisons finalement que ceux de Jamaïque, ont été expulsés de Cuba lorsque Napoléon a mis son frère sur le trône d'Espagne. Donc les autorités espagnoles n'ont pas trop aimé et donc de la même manière ont expulsé tous les Français qui vivaient à Cuba. On peut dire aussi qu'il y a eu pendant toute la décennie, on va dire, la première décennie du 19e siècle, des vagues de remigration venues des États de l'Est, des États-Unis, où les réfugiés avaient finalement trouvé un terrain moins fertile culturellement, en particulier du fait de, d'une langue différente, d'une religion majoritairement différente, etc. Et donc, ils se sont petit à petit relocalisés en Louisiane. Alors, on parle de combien de personnes ? On parle d'environ 15 000 personnes, en fait, en totalité. Alors, les chiffres les plus précis et les plus clairs sont ceux de la vague cubaine. Donc là, il y a 10 000 personnes qui sont arrivées en l'espace de 6 mois, en fait. Et là, on a vraiment les détails, en fait, des arrivées, des listes de migration, etc. Donc là, on sait très bien. C'était décompté par le maire de la Nouvelle-Orléans qui écrivait au gouverneur en lui donnant les chiffres de chaque bateau, etc. Donc on sait très bien qui est arrivé à ce moment-là. Alors, où se sont-ils installés ? Alors, à la Nouvelle-Orléans, essentiellement. C'est des gens qui sont restés urbains. 90% d'entre eux sont restés à la Nouvelle-Orléans. Dans un tout premier temps, ils ont eu un peu de mal à se réinsérer économiquement en particulier, forcément. Mais en fait, ça n'a pas duré. Et très rapidement, ils se sont très bien intégrés dans le tissu économique de la Nouvelle-Orléans, même s'ils ne se sont pas forcément réintégrés dans leur champ d'expertise habituel. Donc, on va le voir. Alors, une migration relativement communautaire, entre guillemets, alors là, il faudrait en discuter, sans doute donner davantage de détails, effectivement, ce sont des gens qui se sont beaucoup entraidés. En organisant des événements sociaux, en passant des annonces dans les journaux, etc. Enfin, on a l'impression qu'il y a eu une vraie vie communautaire de ces réfugiés de Saint-Domingue. Ils se sont installés dans des quartiers particuliers, le Carré français, Marigny, Trémé, en fait. Donc ils ont fait partie, il y a eu une relative unité géographique, on va dire. Ils se sont beaucoup fréquentés entre eux, donc une tendance à la fréquentation communautaire, d'où le maintien d'une certaine forme d'ethnicité, une certaine unité culturelle qui est intéressante. Alors en même temps, ils se sont quand même petit à petit mélangés avec les populations créoles d'une part et la population française, donc ces migrants venus de France. Et donc là, si on étudie les registres de mariage, les contrats de mariage, etc., on se rend compte que petit à petit, ils se sont intermariés en fait entre diverses communautés. Donc ce qui est intéressant parce que ça a permis en même temps la diffusion en fait d'une certaine culture dans les autres groupes migrants ou installés francophones. Donc une énorme migration aussi, ça il faut bien en tenir compte. La vague cubaine, à elle seule, a fait doubler la population de la Nouvelle-Orléans. Compte tenu qu'il y avait déjà des réfugiés de Saint-Domingue qui étaient installés des vagues précédentes. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose d'énorme. Enfin, c'est comme si on imaginait des migrants arrivant à Bordeaux aujourd'hui faisant doubler la population bordelaise. Alors bien sûr, c'était pas les mêmes chiffres, mais enfin, on a doublé la population, voire même a multiplié par 3 à peu près. La population de couleur libre, par exemple, de la Nouvelle-Orléans. D'où l'importance, en fait, on peut imaginer déjà seulement numériquement l'importance qu'ils ont pu avoir. Donc, en fait, c'est ce qui m'a intéressée, moi, c'est de voir leur influence économique, sociale, politique sur la Nouvelle-Orléans. Alors, aujourd'hui, j'ai pas le temps vraiment de vous parler des aspects justement économiques, politiques et sociaux. Je vais plutôt en fait choisir l'angle culturel parce que ça m'a semblé plus intéressant. Mais on peut voir la façon dont ils ont influé sur l'économie en créant des nouveaux champs. Par exemple, ce sont eux qui sont à l'origine, alors ça je le dis parce que c'est lié à la culture, ce sont eux qui sont à l'origine de la création en fait, de la une grande partie du système éducatif néo-orléanais, en tout cas de l'éducation supérieure à la Nouvelle-Orléans. Les premières universités ont été créées par des réfugiés de Saint-Domingue ou des enfants de réfugiés de Saint-Domingue. Alors l'université de Tulane, qui est restée la plus célèbre sans doute, a été créée par Paul Tulane, donc, qui était le fils d'un réfugié de Saint-Domingue. Mais on peut trouver des tas d'autres exemples. L'essentiel de la presse louisianaise, en fait, a été créé par les réfugiés de Saint-Domingue. Donc, ils ont fondé les journaux. C'est eux qui étaient rédacteurs en chef. C'est eux qui étaient les journalistes de ces journaux. Ils ont créé tous les théâtres, les premiers théâtres de la Nouvelle-Orléans, l'opéra de la Nouvelle-Orléans. Donc, ils ont été extrêmement dynamiques, en fait, dans le domaine culturel. Et on peut très bien comprendre pourquoi ça s'est passé. C'est qu'ils n'avaient plus leurs moyens de vie, de production. Enfin, c'était souvent des planteurs ou des gens qui faisaient partie des classes bourgeoises, marchandes, etc., de Saint-Domingue. Et donc, ils n'avaient plus leur outil de travail et d'enrichissement originel. Et donc, ils se sont, en fait, reconvertis dans ce qu'ils maîtrisaient le mieux. Et il faut dire que le niveau culturel à Saint-Domingue était beaucoup plus développé qu'en Louisiane au moment de leur arrivée. Donc en fait, ils ont saisi ce créneau pour se reconvertir. Ils se sont reconvertis aussi beaucoup dans le droit, d'où une certaine influence importante dans le maintien, par exemple, du droit romain en Louisiane, alors que les Américains tentaient d'imposer la loi canon sur l'État de Louisiane, etc. Le sucre aussi, alors j'en parle, c'est pas culturel, mais enfin c'est quand même important dans l'histoire louisianaise. Les Louisianais essayaient depuis longtemps de produire du sucre sans grand succès. Et en fait, la première réussite de granulation de sucre a été sur les propriétés d'Étienne de Boré, qui, en fait, avait employé un ancien planteur de Saint-Domingue qui est venu granuler le sucre en Louisiane. Donc, ils ont vraiment eu une importance. Ils se sont insérés dans des brèches, on va dire, de la société louisianaise, et ils ont ouvert des nouvelles niches aussi, en même temps, développant un certain nombre de secteurs. Alors, je ne reviendrai pas sur l'influence sur l'organisation sociale, encore qu'elle ait pu avoir un intérêt en particulier sur des questions religieuses, sur le renforcement même du groupe francophone et du groupe catholique à la Nouvelle-Orléans, à un moment important où les Américains commençaient à migrer en masse, en fait, dans l'État de Louisiane. Un rôle politique aussi au sens large, sur lequel je ne m'étendrai pas. Mais en revanche, en fait, d'un point de vue culturel, en fait, ils ont eu une importance essentielle. Alors, pour diverses raisons, numériquement évidemment, pour le maintien de la francophonie, mais aussi et surtout, je pense, parce que ils ont en fait organisé des organes de transmission de cette culture française. Bien sûr, quand on parle de presse, de théâtre, d'opéra, ils ont fondé des librairies, etc. En fait, tout le domaine culturel qui a en fait servi à la diffusion culturelle française. Les écoles, enfin, dans lesquelles on continuait à enseigner en français. Le premier rétablissement d'enseignement supérieur louisianais, qui était le Collège d'Orléans, a donc été un temps dirigé par la Canale, était un organe qui, bien sûr, diffusait la culture et la langue française. On peut se rendre compte aussi qu'ils ont beaucoup plus longtemps garder l'usage du français, en fait, même alors en privé, mais aussi dans leur diffusion. Et par exemple, alors en privé, par exemple, j'ai travaillé un petit peu sur les testaments des Louisianais, enfin qui sont archivés en Louisiane, et les créoles se sont mis beaucoup plus tôt à rédiger leur testament en anglais, en fait. Dans les années 30 déjà, beaucoup de créoles rédigeaient leur testament en anglais, alors que les réfugiés de Saint-Domingue continuaient à rédiger leur testament en français. Alors, il y a diverses raisons pour ça, hein. C'était aussi parce qu'ils voulaient faire valoir leur propriété dans l'espoir des indemnités qu'on leur verserait pour la perte de leur propriété. Mais il s'agissait aussi de revendications culturelles. Et par exemple, les hommes de lettres louisianais originaires de Saint-Domingue ont continué à publier en français pendant tout le XIXe siècle. Y compris à fonder des journaux, par exemple, pendant la guerre de sécession, entre autres, Louis-Charles Roudanet, enfin les frères Roudanet, qui étaient des réfugiés de Saint-Domingue, ont fondé, en fait, le premier quotidien noir des États-Unis, et c'était un quotidien en français. Et on peut même aller jusqu'à Des Dunes, qui a publié en fait en 1911 en français son histoire des créoles de couleur de la Nouvelle-Orléans. Donc on voit quand même une résilience, on va dire, du français beaucoup plus importante chez eux. Alors, en même temps, je pense que ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils ont participer au maintien d'une culture et d'une langue française en Louisiane, sans doute beaucoup plus tard que ça n'aurait été le cas s'ils n'avaient pas migré au moment précis où les États-Unis devenaient propriétaires de la Louisiane. En même temps, alors, ça n'est pas complètement une culture française traditionnelle qu'ils ont amenée avec eux. Je trouve que c'est aussi intéressant de réfléchir en termes d'interculturalité et d'utiliser un terme qu'on utilise beaucoup pour la culture caraïbe en particulier, et le terme de créolisation qui, et c'est intéressant, s'utilise très peu aux États-Unis pour parler de tous les mélanges interculturels qui se sont opérés sur le territoire états-unien, mais qui s'utilise à la Nouvelle-Orléans, bien sûr, pour décrire en fait le processus culturel de création identitaire culturelle de Louisiane. Et en fait, il faut penser que ces réfugiés de Saint-Domingue, donc blancs et noirs, libres et esclaves, ont amené avec eux une culture qui déjà s'était créolisée une première fois à Saint-Domingue, et qu'ils ont apporté un certain nombre de traits culturels qui étaient spécifiques à Saint-Domingue, de par un premier syncrétisme qui avait eu lieu. Je pense par exemple au vaudou, qui n'existait pas en tant que tel, en tant que culte organisé, en tout cas avant l'arrivée des réfugiés de Saint-Domingue. Il y avait bien sûr des pratiques africaines qui ressemblaient au vaudou tel qu'il s'était constitué en Louisiane, mais qui n'est arrivé en tant que culte constitué qu'avec les réfugiés de Saint-Domingue. Je pense à la langue créole. Alors il y avait des petits frémissements d'une langue créole en Louisiane. On peut trouver un certain nombre de témoignages, mais la langue créole est réellement arrivée au moment de l'arrivée des réfugiés de Saint-Domingue. Et d'ailleurs, les créoles louisianais et haïtiens sont très proches. Alors bien sûr, ils ont ensuite divergé, mais au moment de leur importation, ils étaient très proches, et tout un tas de pratiques que les réfugiés de Saint-Domingue ont donc importé de la médecine populaire, on va dire, à la cuisine, etc., et qui, donc, une fois arrivés en Louisiane, ont subi une deuxième transformation, justement, du fait des rencontres culturelles qui se sont opérées sur le territoire louisianais lui-même. Et donc en fait, c'est assez intéressant de voir, et on parlait tout à l'heure de Lafcadio O'Hearn, donc qui a vécu un temps en Louisiane, et qui, par exemple, a fait un recueil des proverbes créoles de Louisiane qui s'intitule Gombozeb. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit en fait un certain nombre de similarités en fait entre des proverbes qui sont issus directement de la Caraïbe et de Saint-Domingue, voire même des proverbes qui en fait sont liés à des cultures spécifiques, ou voire à la géographie de Saint-Domingue et qui en fait n'ont pas de réalité louisianaise, si ce n'est que elles ont en fait été transportées donc par toute cette population qui est arrivée donc de Saint-Domingue au XIXe siècle. Donc en fait voilà, ça m'intéressait de vous parler un petit peu de ces réfugiés parce que je pense que c'est finalement un pan de la population louisianaise qu'on connaît assez peu, qui est assez peu mise en relief et je pense que ça a eu un rôle très important en fait dans la formation de l'identité culturelle louisianaise. Alors, je vais faire plaisir aux membres du Hot Club bordelais. Entre autres aussi, donc j'ai parlé de la cuisine, j'ai parlé de la médecine, j'ai parlé de toutes ces choses-là. Bien sûr aussi de la musique, de certaines pratiques carnavalesques de la Nouvelle-Orléans, enfin qui clairement ont un lien très évident avec la Caraïbe.